Moi, votre ami ? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez ! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser.
Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après, quel est cet homme ? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez, à moi, d'un différent, morbleu. C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant.
Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela. S'il vous plaît.
Que la plaisanterie est de mauvaise grâce.
Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment.
Non ! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilité, avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme, mais le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant ? Non ! Non ! Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse à des régales peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde ? Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde, puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
Bonjour Georges Forestier.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est une joie d'entamer avec vous cette semaine sur Molière. Et c'est une joie sans égale de la commencer avec le Misanthrope, qui est peut-être, en tout cas à mon humble avis, la plus belle de toutes ces pièces, peut-être la plus belle de toutes les pièces. On va en parler avec vous pendant 50 minutes. Premier point, là on vient d'entendre François Beaulieu en Alceste et Michel Duchossois en Philinte dans la scène d'exposition, une scène tonitruante où tout est dit, où surtout en guise d'exposition, le caractère d'Alceste se présente dans toute sa splendeur, dans toute la splendeur de sa rage. Avant d'examiner ce qu'il dit de l'amour du genre humain, de cet amour, de ce rapport de haine et d'amour qu'il entretient avec le genre humain dans sa généralité, un tout petit point. Au début, quelques vers avant le début, il dit, après le début, il dit « Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers, j'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. » L'emploi de ces deux verbes, évidemment, être et paraître, dit l'essentiel du rapport d'Alceste à la vérité et de son caractère. Georges Forestier.
Une grande partie de la pièce est fondée sur la dialectique de l'être et du paraître. Simplement, ce qui est compliqué, c'est que toute la pièce est ambiguë, parce qu'on pourrait croire que Alceste et Molière, à travers lui, dénoncent le comportement de la société mondaine, alors qu'en fait, ils jouent sur les valeurs exprimées par la société mondaine, toutes les fois que tous les personnages qui sont ridiculisés dans la pièce d'ailleurs, et une grande part du ridicule de la pièce, consiste à mettre en exergue ceux qui font de l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, l'ambiguïté de la pièce repose sur le fait que Alceste est ridicule toutes les fois qu'il va à l'excès de la dénonciation des valeurs mondaines, Et inversement, les mondains sont ridicules, toutefois qu'ils se comportent de façon excessive dans ces mêmes valeurs.
En somme, les mondains sont ridicules quand ils se comportent conformément aux diatribes d'Alceste sur la société.
Non, ils sont ridicules toutes les fois qu'ils vont plus loin que ce qui est représenté comme étant la norme de la société par Philinte. Parce qu'en fait, ce qui est dans cette première scène, c'est un véritable dialogue philosophique qui explique justement non pas tant le caractère d'Alceste, si vous voulez, on y reviendra après, hein, sur la question de la misanthropie, mais qui met en place ce que c'est que la sociabilité galante. Et Philinte explique ce que c'est que la sociabilité galante. Et Alceste, en tant qu'homme tout entier contre, enfin plus exactement tout entier pour la sincérité, évidemment, récuse ce qui est l'élément clé de la sociabilité galante, qui est la complaisance. Et c'est la raison pour laquelle il dénonce les excès de complaisance de certains courtisans.
En même temps, le portrait que fait Philinte, dont le nom dit à la fois l'amour et l'amabilité. Philinte, c'est celui qui est bien élevé et c'est par ailleurs l'amoureux, on le verra plus tard. Fidèle à son amour comme à son amitié d'ailleurs, et ce qui pour lui est une tension. Le personnage de Philinte est un personnage assez prodigieux. Dans l'ordre des personnages secondaires, c'est peut-être le plus beau de tous. Le portrait que brosse Philinte de la société, un portrait est un portrait lui-même, sans complaisance. Il ne cesse de dire qu'il faut aux rapports humains une dose homéopathique d'hypocrisie, finalement, et de convenance. Mais il n'est pas plus dupe qu'Alceste de ce qui indigne le misanthrope, Georges Forestier.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, précisément, c'est en cela que Philinte incarne les valeurs mondaines. Et il faut savoir que cette pièce est une pièce mondaine écrite pour les mondains. Et que les mondains, contrairement à ce qu'on a cru pendant trois siècles, Molière écrit pour les mondains. L'essentiel du public de Molière, ce n'est pas le peuple, ce qui ne veut rien dire, parce qu'à 15 sous, c'est-à-dire 3 quarts de livre, 3 quarts de franc, alors qu'un valet recevait 100 francs par an, un valet ne pouvait pas aller au théâtre. Donc en fait, l'essentiel du public de Molière, ce sont les mondains et les bourgeois. Et le public qui porte Molière depuis quelques années, ce sont les mondains. Or, Philinte, précisément, incarne ce qui représente la sociabilité mondaine. C'est pour ça que Molière lui fait dire, d'ailleurs un peu plus loin, « Mon flegme est philosophe autant que votre bile ». C'est-à-dire qu'ils ont exactement la même position, le même regard sans complaisance sur la nature humaine. Mais l'un, Philinte, estime qu'il faut savoir faire usage de complaisance, ce qui est la valeur suprême de la mondanité, alors que l'autre estime qu'il faut faire tout le temps preuve de sincérité, et la sincérité conduit à la misanthropie.
Mais est-ce qu'on n'est pas, Georges Forestier, ici au cœur d'un paradoxe insurmontable dans la personne d'Alceste? Il ne cesse de vanter l'être aux dépens du paraître. Il ne cesse de vanter la sincérité aux dépens de l'affectation. Bon, très bien. Et pourtant, il ne cesse de reprocher à Philinte des démonstrations d'amitié ou d'affection qu'il porte à des gens dont par ailleurs il oublie le nom, en somme de se conduire en courtisan. Comment peut-il à la fois distinguer l'être et le paraître, la vérité de l'apparence, tout en disant à Philinte que s'il se conduit galamment ou poliment avec quelqu'un qui n'est pas son ami, c'est qu'au fond il fait profession de l'aimer véritablement. Comment peut-il être jaloux de l'amitié que Philinte, l'amitié entre guillemets, que Philinte témoigne à d'autres que lui, si pourtant Alceste est celui qui distingue les apparences et l'être?
Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que là, vous touchez du doigt la couture qu'il y a dans la fabrication du personnage. Cette pièce est une des pièces les plus travaillées par Molière, et en même temps, on distingue plusieurs strates dans cette pièce. Ce qu'il y a de fondamental, c'est que Molière a construit sa pièce à partir d'un modèle qui est la critique de l'école des femmes qu'il avait écrit un an plus tôt, qui est une comédie de salon. Il a développé cette comédie de salon, et pour lui donner une colonne vertébrale, il a eu l'idée de mettre en place un personnage de jaloux qui poursuit une coquette, c'est-à-dire de fonder sa pièce sur un paradoxe. Comment un jaloux peut-il aimer celle qui est le fondement même de quelqu'un qui suscite la jalousie, c'est-à-dire une coquette, et qui ne peut aimer tous les hommes. À partir de là, il a ensuite éprouvé le besoin de ce jaloux de lui coller un second trait de caractère qui est la sincérité absolue. Et à partir de là, il a, pour pouvoir justifier qu'il étende cette sincérité absolue à l'ensemble des hommes, il a créé en lui un personnage de misanthrope. C'est-à-dire que certaines des contradictions qu'on ressent dans le dialogue entre les personnages viennent de ces coutures. Quand on regarde la pièce rapidement, quand on l'a en tant que spectateur, quand on la lit en tant que lecteur rapidement, on ne les voit pas, ces coutures, parce que précisément, Molière est un grand écrivain et que le boulot d'un grand écrivain, c'est précisément de dissimuler les coutures.
Comme dirait Montaigne dans le texte sur la Boétie, hein, les coutures s'estompent.
Voilà.
Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà. D'ailleurs, on a avec Alceste et Philinte une figure, et on va en parler, une figure assez pure de l'amitié. Figure d'ailleurs de l'amitié dont la pureté vient davantage de Philinte, qui n'a aucune raison de rester l'ami d'Alceste et qui pourtant ne le quitte jamais, qui l'accompagne partout et qui, autant qu'il peut, essaie d'adoucir son sort, alors qu'il n'y trouve aucun intérêt. On peut bien dire d'Alceste et de Philinte qu'ils sont de vrais amis, dans la mesure où ils n'ont aucune raison d'être amis, et qu'on peut dire de l'un comme de l'autre, parce que c'était lui, parce que c'était moi, non, Georges Forestier?
Oui, sans doute. Mais, sauf que c'est pas une contradiction. Mais Molière fait préciser par Philinte qu'ils ont été sous même soin nourris. C'est-à-dire que ce sont quasiment des frères. Hein. C'est ce qui explique cette constance de Philinte, évidemment, à l'égard de quelqu'un qui le repousse constamment dès lors qu'il le contredit.
Alors, il le repousse constamment au motif que c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Et puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Par ami du genre humain, ici, Alceste désigne l'hypocrite universel, hein, celui qui parle indifféremment aux gens qu'il aime ou qu'il déteste. Mais on pourrait peut-être entendre derrière cette diatribe d'Alceste quelque chose d'extraordinairement profond et peut-être une critique du catholicisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Georges Forestier. Après tout, l'amitié a mauvaise presse chez les pères de l'Église. On trouve très peu de textes sur l'amitié dans les religions, tout simplement parce qu'il s'agit d'amour universel. Or, l'amitié, elle, comme le dit Alceste parfaitement, elle est sélective. Élective. On n'est pas ami avec tout le monde. Quand on fait un dîner chez soi, on choisit ses bons amis. On ne choisit pas n'importe qui, on ne choisit pas les gens indifféremment. Est-ce que Alceste n'est pas le porte-parole, finalement, d'une vision, j'allais dire presque laïque, c'est-à-dire une vision véritablement amicale de l'amitié, qui dépasserait l'amour du genre humain ou qui, en deçà de lui, s'intéresserait à certains ou dépend d'autres?
Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, même si la question de l'hypocrisie est au cœur du combat que Molière mène au même moment à cause de Tartuffe, puisque vous savez que son premier Tartuffe en trois actes a été interdit deux ans plus tôt, et que depuis ce moment-là, il se bat pour faire croire qu'il a fait une satire de l'hypocrisie, alors qu'en fait, il avait fait une satire de la dévotion et du catholicisme. Hein. Mais il se bat pour faire croire qu'il a fait une satire de l'hypocrisie. Donc, l'enjeu de la dénonciation des vices, et en particulier de l'hypocrisie, est au cœur de son combat. Et le Misanthrope, en 1666, arrive précisément à ce moment-là, même si c'est une pièce que, justement, il a commencé deux ans plus tôt. Hein. Mais ce qui me semble le plus important là, c'est précisément le débat entre, c'est la question de la vie dans le monde. Et vous avez remarqué que, tout le monde sait que dans toutes les éditions, depuis la première édition de Molière, le texte est précédé d'une lettre sur le misanthrope, écrite par un grand mondain d'alors qui s'appelait Donat de Visé, dans laquelle il présente la pièce comme un portrait du monde, comme un portrait du siècle. À tout moment, dans la présentation de la pièce, c'est présenté comme cela. Et précisément, ce qui est en jeu là-dedans, c'est la manière de vivre en société, dans le monde. Et quel monde? C'est-à-dire le grand monde, c'est-à-dire celui qui fréquente les salons, dont une partie fréquente la cour, donc il y a une partie de courtisans. Le monde, c'est le creuset entre les courtisans et les hommes de lettres et les grands bourgeois qui sont admis dans les salons. Et donc, toute la question de savoir, c'est comment vivre là. Et comment vivre là? C'est, on ne peut vivre là qu'en taisant ces particularismes, le fait qu'on veuille qu'on me distingue, qu'on me dit le misanthrope, il faut taire ces particularismes pour pouvoir vivre avec les autres et faire preuve d'une amitié hypocrite, parce que c'est comme ça qu'on peut vivre dans le monde.
Taire ces particularismes, mais faire valoir son égoïsme également. Philinte est celui qui est ami dans la mesure où ceux à qui il s'adresse, tout comme Célimène d'ailleurs, tout comme Acaste, tout comme n'importe quel marquis, j'allais dire Marie, avec ses rubans, le fait. Les gens sont amis les uns avec les autres dans la mesure où un tel a du poids à la cour et par conséquent peut arranger ses affaires. Il faut taire ses particularismes au profit du calcul de son intérêt bien compris, ce qu'Alceste se refuse à faire, Georges Forestier.
Oui, Alceste en fait refuse tout ce qui est ce qu'il considère comme des compromissions, et c'est la raison pour laquelle le mot de complaisance revient très souvent dans la pièce, et systématiquement Alceste le récuse. C'est-à-dire que lui, ce qu'on peut appeler justement l'hypocrisie mondaine, qui est valorisée par les mondains en tant que complaisance, Alceste le refuse. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de la pièce, il va se retirer dans ce qu'on appelait au XVIIe siècle le désert, c'est-à-dire l'endroit où les gens ne sont pas désertus, ça veut dire que c'est le lieu qu'on a quitté. Hein, il ne va pas dans les sables de Moyen-Orient.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien. dans le siècle où nous sommes.
Non, elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat, avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde, et que, par eux, son sort de splendeur revêtue fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang qu'à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter, tête bleue. Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété.
J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis ? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi. Si les apparences sont quelquefois contre...
Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez ? Je m'étonne pour moi qu'étant comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous avez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. Georges Forestier, notre invité aujourd'hui pour entamer une semaine sur Molière, et c'est avec le Misanthrope que nous commençons cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance. Georges Forestier, comment expliquer que l'atrabilaire amoureux, le misanthrope Alceste, s'éprenne de son contraire absolu, c'est-à-dire Célimène ?
La réponse est facile, elle se situe dans un vers un peu plus loin que ceux que vous avez lus, c'est le vers 248, il dit... À Philinte, la raison,
dites-le dans le micro, Georges Forestier, que les auditeurs l'entendent.
La raison n'est pas ce qui règle l'amour. C'est-à-dire que le paradoxe, comme je vous le disais tout à l'heure, sur lequel repose la pièce, c'est un misanthrope jaloux qui aime une coquette. Et comment un atrabilaire amoureux peut-il aimer une coquette ? Précisément parce que la raison n'est pas ce qui règle l'amour.
Ouais, d'accord. Néanmoins, il dit quand même « Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être ». Alceste est lui-même, comme le dit Claude François d'ailleurs, victime de ce que Deleuze appelait le sale petit besoin d'être aimé. Si Célimène ne lui avait pas donné, à bon droit d'ailleurs, des gages d'amour, il ne l'aimerait pas. Il y a beaucoup d'orgueil là-dedans.
Oui, mais en même temps, Alceste est victime de la coquette. C'est-à-dire que la caractéristique fondamentale de la coquette par rapport à une dame galante, simplement galante, c'est que la coquette, elle donne des gages à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est par là qu'elle va chuter à la fin, parce qu'à force de donner des gages écrits à tout le monde, précisément, les uns et les autres vont pouvoir croiser leurs propres gages et dévoiler le masque de la coquette.
Est-ce qu'on peut faire d'Alceste un intégriste, selon vous, Georges Forestier, ou une figure de l'intégrisme? Quand Finante lui dit, quoi, vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute, répond Alceste. À Dorylas, qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien, dit Alceste. Finante, vous vous moquez, Alceste. Je ne me moque point et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien comme objet à m'échauffer la bile, j'entre en une humeur noire et un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Est-ce qu'on peut parler d'intégrisme ici, selon vous? Est-ce que le mot vous semble approprié?
Oui et non, c'est-à-dire que c'est compliqué, tout est compliqué dans une œuvre intéressante, mais si je me permettais un tout petit développement. Cette scène est une scène philosophique et qui reprend des positions philosophiques du philosophe des mondains qui était François Lamothe Levallée. Philosophe sceptique, en fait libertin, mais qui dissimulait son libertinage sous une position de scepticisme chrétien. Et je vais vous lire un passage de Lamothe Levallée dans un traité qui s'appelle « De la vie solitaire ». Mais quand je viens à examiner la vie des courtisans, ou de ceux qui pensent composer ce qu'on nomme le grand monde, je ne puis m'empêcher de conclure que c'était celle de toutes qui était le plus capable de jeter un esprit clairvoyant et philosophique dans une parfaite misanthropie ou totale aversion du genre humain, parce qu'il n'y voit presque rien qui ne choque sa raison, où souvent la folie, l'injustice ou quelques violentes cabales ne l'emportent sur l'intégrité, sur le bon sens et sur la plus haute vertu. Ça, c'est la première citation où on voit d'ailleurs combien elle a inspiré Molière, puisque si Alceste est victime d'une cabale, d'un homme qui, en coulisses, lui fait un procès qu'il va perdre, etc., c'est bien évidemment pour parfaire cette position que décrit Lamothe Levallée.
Un procès qu'il s'apprête à perdre avec joie avant de déplorer le fait de le perdre.
Voilà, c'est-à-dire que avec joie parce que ça le convainc que les hommes sont mauvais et en le déplorant parce que ça le convainc que les hommes sont mauvais.
Georges Forestier, pardon, juste un point. Alceste se désespère que les hommes soient mauvais. Mmh. Il serait probablement encore plus malheureux s'il ne l'était pas. S'il n'avait pas de preuves constamment que je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie, je n'y puis plus tenir, j'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. S'il trouvait une seule occasion de changer d'avis, Alceste serait encore plus triste qu'il n'est, non?
Oui, mais sauf que vous jugez Alceste comme si c'était un être vivant. Et nous, on essaye en même temps ici de juger Alceste comme être de papier fabriqué par Molière.
C'est difficile de ne pas le voir en
oui,
être
bien
vivant.
Sûr. Mais attends, quand on est spectateur et quand on est. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est la manière dont Molière l'a fabriqué. Or, il y a une deuxième citation qui explique et qui permet de répondre complètement à votre question à l'issue de la lecture. C'est une autre citation de Lamothe Levallée qui dit « Un ancien disait qu'il était fort difficile qu'on s'abstienne d'écrire de son temps quelques satires vu ce qui s'y passait tous les jours et il semble qu'on pourrait soutenir de même qu'il est comme impossible à ceux qui voient toutes les sottes vanités du grand monde d'être assez retenus pour nous user contre elles d'aucune invective. » Mais je ne suis pas de cet avis, bon, je saute. Et il explique que, outre qu'il y a beaucoup de témérité pour un particulier de vouloir réformer le monde, il lui est si aisé de se taire qu'en vérité, c'est presque toujours par impuissance d'esprit qu'on se dispense d'en user autrement. Le silence fournit tant d'agréables entretiens à ceux qui savent bien en user qu'il n'y a guère que les inconsidérés qui le rompent pour dire des vérités importunes, outre elles sont presque toujours inutiles. Et là, on voit précisément l'opposition entre Philinte et Alceste.
L'opposition entre Philinte et Alceste reposant sur le fait que, en somme pour Alceste, non seulement toutes les vérités sont bonnes à dire, mais il est bon de dire toutes les vérités. On peut le dire comme ça.
Précisément.
C'est ce qui se passe, c'est tout l'enjeu de l'épisode absolument désopilant du sonnet d'Oronte. Mmh. Quand Oronte vient voir Alceste en lui faisant plein de compliments, en se comportant exactement comme Philinte vient de le faire avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, ce qu'Alceste lui reproche, Alceste se retrouve dans la situation de l'homme flatté qui ne le supporte pas. On va entendre avec vous, Georges Forestier, cette scène remarquable, magnifique. On est toujours là dans la mise en scène de Pierre Dux en 77 avec François Beaulieu en Alceste, Michel Duchossois en Philinte et Bernard Deyrand dans le rôle d'Oronte.
Je viens, pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose.
Monsieur, je suis mal propre à décider la chose, veuillez m'en dispenser.
Pourquoi ?
J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il me faut.
C'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plainte si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte, vous alliez me trahir et me déguiser à rien.
puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur. Je le veux bien.
Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir... C'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers, doux, tendres et langoureux.
Nous verrons bien.
L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si, du choix des mots, vous vous contenterez.
Nous allons voir, monsieur.
Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire.
Voyons, monsieur. Le temps ne fait rien à l'affaire.
L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps, notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui.
Je suis déjà charmé de ce petit morceau.
Quoi ? Vous avez le front de trouver cela beau ?
Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir.
Ah ! Qu'en termes galants, ces choses-là sont mises.
Morbleu, vil, complaisant, vous louez des sottises.
Georges Forestier, on est ici donc dans la scène 2 de l'acte 1, le moment où Oronte présente son sonnet à Alceste et où Alceste, un peu plus tard, ne cessera de lui dire que son sonnet est nul, franchement il est bon à mettre au cabinet, ce qu'il tardera à lui dire d'ailleurs, et je voudrais revenir sur ce moment puisque il essaie de lui dire les choses, il ne peut pas lui mentir et en même temps il ne cesse de dire « je ne dis pas cela ». Alors Oronte lui dit « voulez-vous dire que j'ai tort de vous le dire ?»« Je ne dis pas cela ». Un peu plus loin « est-ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire ?»« Je ne dis pas cela ». »« Est-ce que j'écris mal et leur ressemblage ?»« Je ne dis pas cela ». On est là en présence d'un comique de répétition classique chez Molière. Que signifie cette phrase dans la bouche d'Alceste ? Je ne dis pas cela, alors que c'est précisément ce qu'il dit. Est-ce qu'Alceste n'est pas en train de mentir à Oronte, justement ?
C'est précisément ce que. C'est là qu'on voit la couture dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Alceste, tel que Molière a commencé à le fabriquer, n'est pas un misanthrope. Il devient misanthrope à l'acte 1. Enfin, en fait, il est misanthrope dans les deux dialogues philosophiques entre Philinte et lui, à la scène 1 de l'acte 1 et à la scène 1 de l'acte 5. Entre les deux, il est un homme, un jaloux amoureux d'une coquette, épris d'une sincérité absolue. Mais cette sincérité absolue ne l'empêche pas précisément d'être contraint de jouer le jeu social dans le reste de la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, toute la pièce joue sur un comique axiologique qui est... La rencontre entre les valeurs excessives de part et d'autre.
Mais est-ce que la sincérité... Allez-y,
oui.
Pardon.
Non, c'est simplement... Et on le voit bien dans cette scène, précisément, qui est la scène du sonnet. Parce que, bien souvent, d'abord au passage, bon à mettre au cabinet, c'est au sens du XVIIe siècle. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, dans un tiroir. Hein, le cabinet, c'est la pièce personnelle dans laquelle on travaille, etc. C'est pas le lieu d'aisance, comme on le croit généralement, et on le lit généralement, on voit même des notes, bon, dans certaines éditions scolaires. C'est l'ambiguïté de cette scène, ce qui la rend encore plus drôle à nos yeux quand on la lit avec les yeux du XVIIe, c'est que le sonnet d'Oronte est de même niveau et de même qualité, je dirais, que tant de pièces de sonnets, de madrigaux, etc., qui paraissent, qui étaient recueillies dans des recueils divers, qui ont paru par dizaines dans les années 60 et dans les années 70. Et d'ailleurs, quand on lit la lettre de Loudon Lautvisée qui ouvre le Misanthrope, on voit qu'il ne la juge pas ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est ridicule, c'est la complaisance avec laquelle Oronte, qui est un hyper complaisant et qui se ridiculise parce qu'il va au-delà de la complaisance mondaine, et il fait quelque chose qui est dénoncé dans les traités de civilité mondaine, qui est qu'il impose à d'autres la lecture de son sonnet. Donc c'est la raison pour laquelle Philinte n'exagère pas quand... Il loue chacune des passages, en termes calants, ces choses-là sont dites. La mise en scène, là, le montre presque ricanant, alors qu'en fait, il n'est pas ricanant. Il loue un sonnet qui a sa valeur dans le milieu mondain. De la même manière que lorsque Alceste, un peu plus loin, va chanter sa chanson, c'est une chanson qui évoque la transparence et la sincérité de l'ancienne poésie par opposition à l'absence de naturel de la poésie mondaine. Et il se ridiculise parce que c'est une poésie qui est dépassé précisément à ce moment-là. Et donc, l'ambiguïté, c'est ça. C'est que ni l'un ni l'autre ne sont dans la juste voie de la sociabilité.
Mais est-ce que, justement, est-ce que ça n'est pas aussi, pour mémoire, le texte d'Alceste, celui qu'il donne en exemple à Auronde, c'est « Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de Mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux Mamie au guet, j'aime mieux Mamie. Ne comptez pas sur moi pour vous le chanter. » Est-ce que ça ne signifie pas également qu'Alceste est le porte-parole d'une forme... En somme, qu'Alceste, c'est peut-être Rousseau qui le lirait de cette façon, puisque Rousseau s'identifiait à Alceste très puissamment, qu'Alceste est en somme le porte-parole du peuple, et que Philinte serait, lui, davantage le porte-parole des puissants, ou le prêtre-parole des puissants.
Oui, enfin là, c'est une lecture rousseauiste.
Que vaut-elle, Georges Forestier ?
Au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui ne comprenait pas sur quelle valeur mondaine était fondée la pièce. Et précisément, ce que représente la vieille chanson du bon roi préconisée par Alceste et chantée par Alceste, c'est une opposition entre deux types de poésie. La poésie, comment dirais-je, naturelle mais archaïque, qui est une poésie du début du siècle, et la poésie mondaine, qui est une poésie de qualité, mais qui fait preuve d'une absence totale de naturel. Et c'est sur ce jeu d'opposition entre deux excès, l'un qui réclame une esthétique qui est celle du début du siècle, et l'autre qui réclame une esthétique compassée et convenue et qui manque de naturel précisément, alors même qu'il faut savoir aussi que Molière est loué par tous les mondains comme étant l'homme du naturel, celui qui précisément est capable de restituer le mieux possible sur la scène le naturel des comportements. Et donc, il y a dans ce jeu d'excès une confrontation, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est Philinte qui tire son épingle du jeu, parce qu'il rit de la chanson d'Alceste. Alors qu'ils ont été élevés sous même soin nourris, il doit la connaître aussi bien que lui. Il rit de la chanson d'Alceste, comme il l'a accepté avec une tolérance bienveillante, le sonnet galant d'Auronte.
Mais de la même façon qu'il y a chez Rousseau une illusion à valoriser ou à magnifier la nature comme telle, le retour à la nature ou la bonté naturelle de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas chez Alceste un mensonge dans le fait de faire de la sincérité la valeur absolue, la valeur ultime? Est-ce qu'en somme, la sincérité absolue d'Alceste n'est pas en elle-même mensongère à la façon dont quelqu'un qui tout simplement se flatterait de n'avoir dit que la vérité dans sa vie serait au fond un pervers et se mentirait à lui-même dans la mesure où il serait content de lui. Est-ce qu'Alceste n'est pas victime d'un mensonge supérieur à la sincérité? Est-ce qu'en somme, Alceste n'incarne pas l'idée que la vérité, à tous égards, est un mensonge supérieur au mensonge lui-même, ce qui le fait verser d'ailleurs à un moment avec Célimène dans un éloge de l'artifice paradoxal?
Vous voulez dire le moment où il demande à Célimène de lui dire qu'elle pourrait l'aimer, même si elle pourrait faire semblant en quelque sorte.
Efforcez-vous ici de paraître fidèle, et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. C'est Alceste qui le dit, ça.
Oui, ça il le dit au moment du double dénouement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans la pièce, c'est que c'est une des deux comédies du XVIIe siècle qui ne se termine pas par un mariage, puisque vous savez que l'élément structurel de toute comédie au XVIIe siècle, c'est le mariage des jeunes amoureux à la fin. Il y a deux pièces comme ça importantes qui ne se terminent pas par un mariage, c'est la Place Royale de Corneille et le Misanthrope de Molière. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment la pièce est fabriquée, on s'aperçoit qu'au dénouement, Alceste, Misanthrope, devrait faire comme les autres galants de Célimène, c'est-à-dire quitter la scène les uns après les autres, après l'humiliation de Célimène. Mais précisément, c'est une comédie et il faut la dénouer par l'esquisse du mariage. Et donc, Alceste propose malgré tout le mariage à Célimène, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la raison n'est pas ce qui règle l'amour, et que précisément l'amour est plus important. Donc il propose, mais en même temps, Molière, qui a été attaqué violemment 3 ans plus tôt, au moment de la querelle de l'école des femmes, à qui on l'avait reproché à propos du caractère de Arnolphe et du caractère d'Agnès, de ne pas avoir fait des caractères cohérents jusqu'au bout de la pièce. Là, il va jusqu'au bout de la cohérence des caractères. C'est-à-dire que jusqu'au bout, Alceste est jaloux, atrabilaire et misanthrope. Et malgré tout, comme il est amoureux, il propose dans sa jalousie le mariage à Célimène, mais en lui demandant de la suivre dans le désert. Et jusqu'au bout, Célimène est coquette, et donc jusqu'au bout, elle accepte comme repentir de se marier avec Alceste, mais évidemment, comme elle est coquette, elle n'accepte de se marier avec Alceste qu'à condition de rester à Paris.
Donc c'est un mariage qui... Voilà. C'est en cela, hein, Georges Forestier, que le Misanthrope est plus une tragédie qu'une comédie, finalement. Enfin, une tragédie, en tout cas, une catastrophe. Ça finit sur une catastrophe, puisqu'il y a un moment de bascule où Célimène lui dit « À défaut de vous suivre dans votre désert, je veux bien vous épouser. Ce qui, pour elle, est déjà un véritable compromis. Mais Alceste, voyant dans tous les compromis une forme de compromission, refuse cela en disant « Mon cœur vous déteste. »
C'est-à-dire que les deux personnages, comme je vous le disais, vont au bout de leur logique. Elle accepte de l'épouser comme repentir, mais à condition de rester à Paris dans le monde, et donc de continuer à être coquette, ce que ne peut pas accepter Alceste. Lui, il accepte de l'épouser, mais à condition qu'elle vienne avec lui dans son désert. Donc effectivement, ils acceptent de s'épouser l'un l'autre, mais leur caractère que Molière a construit de façon entière les empêche de s'épouser l'un l'autre. Donc si vous voulez, ça se termine comme une tragédie. Mais ça n'empêche pas que les mimiques que Molière faisait dans toutes les pièces pour lesquelles il a été longuement décrit dans certains textes, hein, les mimiques qu'il faisait lorsqu'il incarnait un personnage qui était face à une désillusion fait que la pièce est terminée pour le spectateur comme une comédie.
Alors, je voudrais qu'on entende Georges Forestier, coup sur coup, un extrait du Misanthrope, toujours dans la mise en scène de Pierre Dux, qui nous accompagne aujourd'hui, puis un extrait de Cyrano de Bergerac, la fameuse tirade des non merci de Cyrano, où l'on a une version contemporaine, d'abord contemporaine de Molière, historiquement, et puis la pièce est plus tardive, hein, la pièce de Rostand, une version nouvelle de la misanthropie, mais une misanthropie cette fois-ci peut-être empanachée et plus joyeuse que celle d'Alceste. Et je voudrais avoir votre sentiment sur cette différence d'humeur qui rend Alceste tellement difficile à fréquenter et en revanche Cyrano tellement sympathique. Écoutez.
Mais quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige ?
Non, vous avez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que je dis ne me peut détourner. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi ? Contre ma partie, on voit tout à la fois l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause. Sur la voie de mon droit, mon âme se repose. Cependant, je me vois trompé par le succès. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire, est sorti triomphant d'une fausseté noire. Il fait, par un arrêt, couronner son forfait. Et, non content encore du tort que l'on me fait, il court parmi le monde un livre abominable et de qui la lecture est même condamnable. Un livre à mériter la dernière rigueur, dont le fourbe a le front de me faire l'auteur. Et là-dessus, on voit Oronte qui murmure et tâche méchamment d'appuyer l'imposture. Lui, qui d'un honnête homme à la cour tient le rang, à qui je n'ai rien fait, qu'être sincère et franc, qui me vient, malgré moi, d'une ardeur empressée sur des vers qu'il a fait demander ma pensée, et parce que j'en use avec honnêteté et ne le veut trahir, lui, ni la vérité, il aide à m'accabler d'un crime imaginaire. Le voilà devenu mon plus grand adversaire, et jamais de son cœur je n'aurai de pardon pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fût bon. Et les hommes, morbleu, sont faits de cette sorte. C'est à ses actions que la gloire les porte. Voilà la bonne foi, le zèle vertueux, la justice et l'honneur que l'on trouve chez eux. Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge. Puisqu'entre humains, ainsi vous vivez en vrai loup, traître, vous ne m'aurez de ma vie avec vous.
Ça, donc, c'est la scène 1 de l'acte 5 du Misanthrope, Georges Forestier. Et maintenant, on va entendre, on est à la fin de l'acte 2, le passage dans lequel Cyrano de Bergerac vient de refuser de faire représenter son Agrippine devant Richelieu, au motif que Richelieu pourrait en corriger quelques vers. Et le sang de Cyrano se coagule à l'idée qu'on y change une virgule. Et voici ce qu'il répond à Lebray, son ami Lebray, qui occupe avec lui un peu le même rôle que Philinte avec Alceste.
Ah, tu conviendras.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. expédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense. Dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.
Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
Voilà le fond de l'affaire, hein. Cyrano n'est pas aimé de Roxane. Il y a plusieurs différences entre Cyrano et Alceste. Georges Forestier, je voudrais avoir votre sentiment. D'abord, Cyrano n'est pas aimé de Roxane, alors qu'Alceste, lui, est aimé de Célimène. Cyrano veut aller dans la lune, alors qu'Alceste veut aller dans un désert. Enfin, Cyrano, lui, fait des vers, alors qu'Alceste, lui, récite des chansons populaires. Est-ce que cela suffit à distinguer ces deux personnages et à rendre le premier infiniment sympathique et le second franchement insupportable?
En tout cas, en réécoutant ce passage, on a l'impression que Edmond Rostand a bien lu Cyrano et Molière et le Misanthrope avec un zeste de romantisme dont il était. Mais est-ce que vous dites que le Misanthrope, enfin Alceste, est franchement insupportable? Est-ce qu'il est franchement insupportable? Parce que ce qui est intéressant, précisément là encore, c'est de voir l'ambiguïté du personnage. Comment un personnage qui serait insupportable peut-il être aimé, comme vous l'avez dit, de Célimène, bon, encore qu'elle l'aime tout le monde, hein, en tant que coquette, mais déliante, et d'Arsinoé, la prude. C'est quand même important. Et qu'est-ce qui fait que Cyrano n'est pas aimé dans la pièce? C'est son physique. C'est pas son caractère. Donc en fait, si Alceste avait un nez aussi long que celui qu'on prête à Cyrano, il est peut-être...
Il serait peut-être un peu plus hypocrite.
Voilà, qu'il il se battrait un peu plus en duel.
En somme, Alceste, a sur Cyrano l'avantage ou l'inconvénient d'être beau, peut-être. En tout cas, il plaît aux femmes. Il plaît aux femmes. Alors, parmi ces femmes, vous en avez cité trois, donc Célimène, Arsinoé et Liante. Je vous propose qu'on s'arrête un instant sur la figure d'Arsinoé, qui est en somme peut-être la version féminine du Tartuffe. Arsinoé, c'est la prude, celle dont Guitry disait, parlant des vieilles personnes, il dit « les vieux donnent de bons conseils parce qu'ils ne sont plus en âge de donner de mauvais exemples ». C'est exactement Arsinoé, ça.
Exactement. Et là encore, là où la pièce est ambiguë, c'est que Célimène, la coquette, ses travers sont dénoncés par Arsinoé, la prude, et ce sont de vrais travers qui sont dénoncés par Arsinoé et la prude. De toute façon, Molière reprend là des passages de Artamène ou le grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry. Il s'inspire d'un dialogue entre deux femmes, entre une coquette précisément et une chaste jeune femme. Sauf que Arsinoé et la prude est déconsidérée parce qu'elle est d'emblée présentée comme une prude, donc comme une hypocrite. Et effectivement, ce à quoi joue Molière depuis quelques années, c'est dans le cadre de la galerie de portraits mondains qu'il fait depuis la critique de l'École des femmes, au lendemain de l'École des femmes, c'est précisément de dénoncer ceux qui vont dans l'excès, et particulièrement dans l'excès de la dévotion, qui n'est qu'hypocrisie. Et c'est pas pour rien qu'en fait, le Misanthrope que Molière commence à mettre en chantier à la fin de 63, au début de 64, est exactement contemporain de la première version de Tartuffe qui est mise en chantier à la fin de 63.
De sorte qu'il travaille sur le Tartuffe tout en travaillant sur le personnage d'Arsinoé.
Exactement.
Alors, vous avez parlé de Madeleine de Scudéry, Georges Forestier. Hein. Pour mémoire, cette femme est morte à 94 ans. C'est ahurissant. Elle est née au début du XVIIe siècle.
C'est la chasteté qui l'a conduite.
C'est peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant avec Madeleine de Scudéry, c'est que c'est une intellectuelle. C'est une authentique intellectuelle. Et pourtant, c'est celle dont Molière se moque dans Les Précieuses Ridicules.
Non, pas du tout.
Non, j'ai pas
autant. Non, mais enfin, je veux dire, excusez-moi.
Allez-y, allez-y.
De vous dire ça comme ça. C'est que. On a cru que... Voilà, le malentendu sur Les Précieuses Ridicules est tel qu'il faudrait consacrer 3 émissions à ça. Donc on n'est pas parti pour ça. Mais simplement...
Il vous reste 3 minutes. Là.
Voilà. En 3 minutes, je vais en utiliser 30 secondes à vous dire que dans un grand nombre de pièces de Molière, il y a des reprises tout à fait, comment dirais-je, sans la moindre ironie ni ambiguïté, de passages des deux grands romans de Mademoiselle de Scudéry qui sont...
Artamène,
le grand Cyrus, et la Clélie. Deuxièmement, si Molière s'était moqué de Mademoiselle de Scudéry en 59-60, avec Les Précieuses Ridicules, on se demande comment l'ami de cœur de Mademoiselle de Scudéry, qui est Pélisson, le théoricien de l'esthétique galante, aurait fait inviter par Nicolas Fouquet, 2 ans plus tard, Molière à inaugurer le château de Vaux en présence du roi, etc. Je veux dire, on peut accumuler des centaines d'exemples, et encore une fois, ce que je vous dis, c'est que dans Le Misanthrope, les oppositions entre les personnages, le comique axiologique que Molière fabrique avec cette opposition de valeurs, il le fabrique à partir de débats qu'il y a tout au long d'Artamène et le Grand Cyrus.
Alors, on a comparé avec le Tartuffe. Le Tartuffe, on va en parler jeudi avec Jacques Lassalle. Néanmoins, il y a peut-être une supériorité du Misanthrope sur le Tartuffe qui tient à la fin. La fin du Tartuffe est un éloge du roi, dont la clairvoyance dénonce la fourberie et l'hypocrisie du monde. La fin du Misanthrope est une tragédie, donc, comme on en parlait tout à l'heure, hein, le départ dans son désert d'Alceste. Mais il y a un dialogue, donc si on fait d'Arsinoé un avatar de Tartuffe, il y a un dialogue entre le Tartuffe et le misanthrope, c'est-à-dire entre l'hypocrite absolu et le sincère absolu. C'est le dialogue entre Arsinoé et Alceste. Arsinoé est amoureuse d'Alceste. Elle vante sa pureté, sa sincérité, son honnêteté, etc. etc. Et elle commet un impair, elle dit du mal de Célimène. Et à ce moment-là, Alceste repère sous la figure de la prude, soi-disant sincère et dévote, qui est Arsinoé, un personnage monstrueux quand il lui dit « En disant cela, songez-vous, je vous prie, que cette personne est, madame, votre amie. »
Et en même temps, comme Alceste est jaloux, amoureux et jaloux, il va malgré tout suivre Arsinoé chez elle, où elle va lui montrer une lettre écrite à un galant par Célimène. Et là encore, on est en présence d'une contradiction. C'est-à-dire que Alceste, qui fuit toute complaisance, qui est l'amoureux de la sincérité, il n'empêche que, pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour faire avancer la pièce, Molière le fait suivre Arsinoé, qu'il déteste et dont il récuse précisément l'hypocrisie.
Est-ce que toute la pièce, c'est ma dernière question, Georges Forestier, est-ce que toute la pièce ne se résume pas dans un dialogue entre la constance et l'offense ? Je m'explique. Acte 2, scène 1. Alceste dit à Célimène, « Perdez votre procès, madame, avec constance et ne ménagez point un rival qui m'offense. » Scène 2, acte 4. Alceste dit à Éliante, « Ah, faites-moi raison, madame, d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance. » Alceste fait rimer 2 fois offense et constance dans la pièce. Seulement, dans un cas, la constance est première et l'offense est seconde. Dans l'autre, c'est l'inverse. Est-ce que finalement, toute la pièce ne se résume pas là ? Vous avez 10 secondes pour répondre, Georges Forestier.
Donc, si je vous dis oui, en 5 secondes, on peut s'en tenir là. Parce que sinon, il faudrait développer en 3 minutes.
Je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zanthrope, c'est notre ami Zanthrope. Bonjour, la Misanthrope. Quand il est à Saint-Trope, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas, mais quand il est à Sète, il vit comme à Saint-Trope. Toute la nuit.
Du Bobby Lapointe pour terminer cette émission en votre compagnie. La Misanthrope, ça s'imposait. C'est un choix évidemment de François Connac. Un grand merci, Georges Forestier. Vous êtes spécialiste, on l'avait compris, de littérature du XVIIe siècle. Vous enseignez la littérature française à Paris 4. C'est du Misanthrope que nous venons de parler. Le chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre absolu de Molière. Hein. Toute cette semaine est consacrée à Molière. Son seul but est de vous inviter à le lire et à le relire, chers auditeurs. N'hésitez pas, c'est magnifique.